Journal d'un écrivain, 1876, décembre. Chapitre 1. Encore l'affaire simple et compliquée. Vous vous rappelez cette Catherine Prokofieva Kornilova, cette marâtre qui, au mois de mai dernier, par dépit contre son mari, jeta par la fenêtre sa petite belle-fille âgée de 6 ans. On s'est souvenu de cette affaire, surtout parce que la fillette, précipitée d'un 4e étage, ne s'est rien cassée, rien abîmée, et se trouve aujourd'hui dans un état de santé excellent. Je ne vais pas recommencer mon article. Peut-être mes lecteurs ne l'ont-ils pas oublié complètement. Je répéterai seulement que cette affaire m'avait paru extraordinaire et qu'on l'avait, selon moi, envisagée à un point de vue un peu trop simple. La malheureuse criminelle était enceinte et irritée par les reproches de son mari. Mais son désir de vengeance n'était peut-être pas la cause principale du crime. Pour moi, l'état morbide de la coupable devait surtout être pris en considération. Elle avait dû connaître ces étranges crises dont souffrent les femmes enceintes, ces crises qui ressemblent à des accès de folie et qui poussent, parfois, à la perpétration d'actes abominables. Je donnais cet exemple d'une dame de Moscou qui, à une certaine époque de ses grossesses, succombait toujours à de folles tentations de voler. Elle gardait son discernement, mais ne pouvait résister à sa manie. Quand j'écrivis ces choses, il y a 2 mois, j'avais le plus grand désir de faire apporter, si cela était possible, quelque adoucissement à la peine de la Kornilova. Mais je ne croyais guère y parvenir. Je ne cachais pas qu'à mon avis, après tant d'acquittements scandaleux de crimes prouvés, conscients et abominables, on aurait bien pu acquitter aussi la Kornilova. Quelques jours à peine après la condamnation de cette malheureuse malade aux travaux forcés et à la déportation à vie en Sibérie, une meurtrière, la Kirillova, était acquittée. Après avoir exposé le cas de cette pauvre femme, âgée de 20 ans, et arrivée à la dernière période de la grossesse, je me laissais aller à rêver à ce qui pourrait lui arriver. Vous vous rappelez que je la voyais déjà, peut-être, réconciliée avec son mari, qui, malgré son droit absolu de se remarier quand il lui plairait, visitait sans doute la coupable dans sa prison. Je me figurais qu'ils pleuraient ensemble, que la petite victime, oublieuse du crime de sa belle-mère, lui prodiguait ses caresses en toute sincérité. J'avais même été jusqu'à imaginer la scène de la séparation dans la gare du chemin de fer. Selon moi, ils ne pouvaient point ne pas se pardonner mutuellement, non seulement parce que le sentiment chrétien devait les y pousser, mais encore parce qu'un obscur instinct pouvait leur dire que, peut-être, n'y a-t-il pas là crime du tout, rien qu'un acte involontaire, inexplicable, permis par Dieu pour le châtiment de leurs péchés. Sous l'impression de ce que j'avais écrit, je fis tout mon possible pour voir la Kornilova avant son départ de la prison. J'avoue que j'attachais un grand intérêt à savoir si je ne m'étais pas trompé dans mes imaginations de romancier. Et justement, une circonstance me permit d'aller visiter la Kornilova. Je fus tout surpris de voir que mes rêves s'étaient trouvés presque conformes à la réalité. Le mari vient bien lui rendre visite dans sa prison. Ils pleurent tous deux, se lamentent l'un sur l'autre, se pardonnent réciproquement. « La fillette serait venue, m'a dit la Kornilova elle-même, si elle n'était pas interne dans un pensionnat. » Je ne pourrais pas raconter tout ce que j'ai appris sur cette malheureuse famille. Des volumes et des volumes. Je me suis, certes, trompée sur quelques détails. Kornilov, bien que paysan, s'habille à l'européenne. Il est beaucoup plus jeune que je ne croyais. Il est employé dans une imprimerie de l'État et reçoit des appointements relativement considérables, qui le font bien plus riche que je ne supposais. Quant à la femme, elle était couturière, continue à coudre dans sa prison et gagne aussi pas mal d'argent. Ils ne sont donc pas aussi préoccupés que je me le figurais, du thé et du sucre pour le voyage. Quand j'ai vu la Kornilova pour la première fois, elle venait d'accoucher, non pas d'un fils, mais bien d'une fille, quelques jours auparavant. Somme toute, mes erreurs ont été peu importantes. Le fond demeure vrai. La Kornilova se trouvait, en raison de ses couches récentes, dans une section spéciale. Elle avait une chambre à part. Sur son lit était l'enfant nouveau-né qu'on avait baptisé la veille. J'ai gardé une impression très consolante de cette section des femmes. Les relations des surveillantes avec les prisonnières étaient empreintes d'une grande bienveillance. J'ai vu plusieurs cellules où des criminels allaitaient leurs enfants. J'ai été témoin des soins et des égards qui leur étaient prodigués. À ma première visite, j'ai passé 20 minutes avec la Kornilova. C'est une jeune femme d'aspect très agréable, au regard intelligent. Au début, elle semblait un peu étonnée de ma venue. Puis elle comprit que je m'intéressais à elle et se montra tout à fait franche avec moi. Elle n'est pas très parleuse, mais ce qu'elle dit, elle le dit fermement, nettement. On voit qu'elle est sincère. Rien de doucereux, d'insidieux chez elle. Elle parlait avec moi, non comme avec un étranger, mais comme avec l'un des siens. Elle était encore sous l'influence de ses couches récentes et des émotions du jugement. Elle était excitée et se mit à pleurer en pensant à un témoignage mensonger que l'on avait fait sur elle. L'un des témoins lui prêtait, aussitôt après le crime, des paroles qu'elle affirme n'avoir jamais prononcées. Elle était navrée de la calomnie, mais s'expliquait sans haine et s'écria simplement « C'était mon destin !» Quand je me mis à lui parler de sa petite fille, nouvellement née, elle sourit aussitôt. « Hier, nous l'avons baptisée. »« Et comment s'appelle-t-elle »« Catherine. » Ce sourire de la mère condamnée aux travaux forcés et regardant son enfant, né dans la prison, peu de temps après le verdict, qui la condamne en même temps que la coupable, ce sourire a produit en moi une impression étrange et pénible. Je l'ai questionnée sur son crime, et le ton de ses réponses m'a plu par sa franchise. Elle disait tout, clairement, sans tergiverser. Elle avoua sans embâge qu'elle était coupable de ce dont on l'accusait. Ce qui me frappa, c'est qu'elle ne chargea aucunement son mari, bien au contraire. Alors, mon Dieu, comment tout cela s'est-il accompli? Elle me raconta de quelle façon elle avait commis son crime. « Oui, j'ai voulu le mal, me dit-elle, mais c'était absolument comme si ma volonté n'avait plus été à moi, comme si elle eût été la volonté de quelqu'un d'autre. » Elle s'était rendue au commissariat très sciemment. Toutefois, il lui semblait qu'elle ne voulait pas y aller, qu'on la forçait à s'y rendre. Elle ne sait pas comment elle y arriva. Mais dès son entrée, elle se dénonça elle-même. La veille de cette visite, j'avais appris que le défenseur de la Kornilova, M. L., avait signé un pourvoi en cassation, de sorte qu'il restait encore quelque espoir, bien faible, il est vrai. Mais moi, j'avais encore un autre espoir, dont je ne parlerai pas actuellement, mais que je dis à la condamnée au moment de mon départ. Elle m'écouta, sans paraître croire beaucoup au succès de ce que je désirais faire faire. Mais elle a cru de toute son âme à l'intérêt que je lui portais et m'en a remercié. À la question que je lui posais, pour savoir si je pouvais lui être immédiatement utile, elle répondit, devinant tout de suite ce dont je parlais, que l'argent ne lui manquait pas, et le travail pas davantage. Elle ne se montra aucunement froissée de mon interrogation à ce sujet. Deux autres fois, je fus la voir. Entre autres choses, je lui parlais exprès de l'acquittement de la Kornilova, qui fut prononcé quelques jours après sa condamnation à elle, la Kornilova. Elle ne montra aucune velléité de s'en indigner. Évidemment, elle se regardait elle-même comme une très grande coupable. En l'observant avec attention, j'ai remarqué, au fond de ce caractère de femme, une grande égalité d'humeur, un curieux esprit d'ordre et, ce qui m'a surtout intéressé, une certaine dose de gaieté naturelle. Néanmoins, il est clair qu'elle souffre de ses souvenirs, que c'est avec une peine sincère et profonde qu'elle regrette de n'avoir pas aimé sa petite belle-fille, de l'avoir battue, quand son mari lui avait reproché de ne pas agir comme sa première femme. Une pensée qui la trouble beaucoup, c'est que son mari peut se remarier. Ce qui la rassure, c'est que Kornilov lui a dit récemment qu'il ne pouvait guère songer au mariage en de pareilles circonstances. Alors, c'est elle-même qui lui parle de cela, pensais-je. Elle comprend très bien qu'après le verdict prononcé contre elle, son mari n'est plus son mari, que le mariage est dissous par le fait même de sa condamnation. Ils doivent avoir des causeries bien tristement curieuses, me dis-je encore. Pendant ces visites, il m'arriva de parler de la Kornilova avec quelques surveillantes et aussi avec Madame A. P. B., la directrice adjointe de la prison. Je pus me rendre compte qu'elle était sympathique à toutes ces dames. Madame A. P. B. me raconta qu'à son entrée dans la maison, la Kornilova était une tout autre femme, grossière, mal embouchée, sauvage. Au bout de 2 ou 3 semaines, elle était devenue telle que je la voyais. Cette particularité m'eût paru très grave pour l'accusation, si le verdict n'eût été prononcé. Mais plus récemment, j'ai appris que le verdict des jurés était cassé, que l'affaire sera jugée à nouveau par une autre section du tribunal, avec le concours des jurés comme auparavant. Si bien que voici de nouveau la Kornilova simplement accusée et non plus condamnée, forçat. Elle redevient la femme légitime de son mari. L'espoir luit encore une fois pour elle. Dieu veuille que cette jeune âme, qui a déjà tant souffert, ne soit pas définitivement brisée par une nouvelle condamnation. On n'a pas le droit de bouleverser ainsi une âme humaine. Ce serait aussi cruel que le fait de détacher un homme qui attend d'être fusillé, de lui donner l'espoir, de lui ôter le bandeau qui recouvre ses yeux, de lui montrer de nouveau le soleil, puis de le rattacher 5 minutes après en face des fusils rebraqués. N'accordera-t-on aucune attention à cette circonstance que l'accusée était enceinte lors de l'accomplissement de son crime? L'accusation mettra en avant un argument très grave. La coupable, dira-t-elle, a agi avec discernement. Mais que vient faire le discernement ici? La conscience pouvait être lucide, mais incapable de lutter contre un désir fou, sauvagement impulsif, de commettre un acte violent. Si elle n'avait pas été enceinte, elle aurait pensé au moment de la colère. « Méchante fille, je voudrais te jeter par la fenêtre !» Mais ne l'eût pas fait. Dans l'état de grossesse, elle subit l'impulsion et fit ce à quoi elle pensait au moment où elle y pensait. Elle ne put résister à son envie morbide. Voyez, elle est la première à s'accuser, à aggraver son cas. La veille, elle eut, dit-elle, jeté la petite par la fenêtre si son mari ne l'eût pas retenue. Il est arrivé quelque chose d'anormal, réfléchissez un peu. Elle regarde par la fenêtre, le crime commis. L'enfant s'est évanoui, elle la croit morte. Elle s'habille et va se dénoncer. Qui ou quoi l'y forçait? Y avait-il des témoins qui pouvaient la voir au moment où elle faisait tomber l'enfant dans le vide? Pourquoi n'eût-elle pas dit que l'enfant était tombé par accident? Au retour du mari, elle aurait raconté le malheur, personne ne l'aurait accusée. Elle se serait vengée sans avoir eu rien à craindre. Même si elle avait pu se rendre compte que l'enfant n'était pas morte et l'accuserait plus tard, de quoi se serait-elle effrayée? Qui eût accordé la moindre importance au témoignage d'une enfant de 6 ans racontant qu'on l'avait prise par les pieds pour la précipiter du 4e étage? Mais le premier médecin expert venu aurait dit qu'au moment de la chute, la petite avait pu s'imaginer, sans raison, que les choses s'étaient passées comme elle le racontait, qu'il s'agissait d'une impression nerveuse. Pourquoi donc la coupable est-elle allée se dénoncer? On nous répondra qu'elle était au désespoir, qu'elle voulait en finir d'une façon ou d'une autre. En effet, il est impossible de trouver une autre explication. Mais cela même ne démontre-t-il pas le bouleversement de l'âme de cette malheureuse enceinte, disons-le encore une fois. Ses propres paroles sont assez caractéristiques. « Je ne voulais pas aller au commissariat, et j'y suis arrivée je ne sais trop comment. » C'est-à-dire qu'elle agissait comme dans le délire, comme poussée par une volonté étrangère. D'autre part, le témoignage de Madame A.P.B. explique bien des choses. On nous dit que la Kornilova était, à son arrivée en prison, méchante, grossière, et qu'au bout de 3 semaines se révéla en elle un être tout différent, timide, doux et tranquille. Pourquoi ? Parce que, terminée une certaine période de la grossesse, la période où la volonté était malade, la période de la folie sans folie, l'état morbide se dissipa et qu'apparut un être nouveau, inoffensif et pacifique. Supposons qu'on la condamne encore au bagne, qu'on désespère encore cette pauvre femme si jeune, qui commence à peine à vivre et se trouve prisonnière et affligée d'un nourrisson. Que s'ensuivra-t-il ? Son âme se corrompra, deviendra féroce et cruelle. Quand le bagne a-t-il jamais amendé personne ? Je le répète comme il y a 2 mois, il vaut mieux se tromper par trop de clémence que par trop de rigueur. Acquitter cette malheureuse, et que son âme ne se perde pas. Elle a longtemps à vivre, cette jeune femme. Il y a de bons germes en elle, ne les étouffez pas. À présent, la leçon terrible qu'elle a reçue peut la détourner à jamais du mal et développer ses bons germes. Supposez même que son cœur soit mauvais et aride, la clémence peut l'adoucir. Mais je vous assure qu'il n'est ni aride ni mauvais. Je ne suis pas le seul à en témoigner. Est-il donc impossible de la quitter, de courir le risque de la quitter ? Chapitre 2 : La morale tardive. Le numéro d'octobre de mon carnet m'a valu quelques soucis. Il contenait un petit article, une espèce de confession d'un suicidé. Quelques amis, de ceux dont je respecte le plus l'opinion, m'ont loué de cet article, mais ont paru partager mes doutes à son sujet. Ils m'ont dit que j'avais, en effet, bien trouvé les arguments que pouvait employer pour sa justification un homme qui va se tuer. Mais ils ont éprouvé une sorte de malaise. Le but de cet article serait-il compréhensible pour tous ? Ces lignes ne pouvaient-elles pas produire une tout autre impression que ce qu'elles voulaient faire naître ? Quelques individus qui ont déjà souffert du désir du suicide ne s'affermiraient-ils pas après les avoir lus dans leur déplorable projet ? En un mot, on m'a exprimé les doutes mêmes que j'avais sentis surgir en moi après avoir écrit cette pseudo-confession. Pour conclure, on me conseilla d'expliquer mon article et de compléter mes commentaires par la morale qu'il convenait d'en tirer. J'y consentis très facilement. Mais je dois dire qu'au moment même où j'écrivais l'article, son but m'avait paru si clair que j'avais eu honte d'y ajouter une morale. Un écrivain a fait une remarque très juste. « Autrefois, on avait honte, dit-il, de paraître ne pas comprendre certaines choses. On semblait, croyait-on, convenir ainsi de son manque d'intelligence. Aujourd'hui, au contraire, la petite phrase « je ne comprends pas » est à l'ordre du jour. On la prononce même avec une espèce de fierté, d'un ton d'importance. On se dresse une sorte de piédestal à l'aide de cette petite phrase. Et chose comique, on ne rougit aucunement de s'en être offert un à si bon compte. C'est un indice de profondeur que de dire à présent « Je ne comprends rien à Raphaël » ou bien « J'ai lu toutes les œuvres de Shakespeare et n'y ai rien trouvé de si étonnant. » En parlant ainsi, on a accompli une sorte d'exploit moral. Shakespeare et Raphaël ne sont peut-être pas les seuls à subir ce genre d'incompréhension. Cette observation que j'ai reproduite quant au sens, mais en en changeant peut-être les termes, me paraît assez juste. En vérité, la fierté des ignorants devient chose démesurée. J'ai remarqué que même en matière littéraire, même dans l'appréciation des détails de la vie privée, on se spécialise de plus en plus. La compréhension générale n'est plus de mode. Je vois des gens discuter l'écume aux lèvres à propos d'un écrivain qu'ils avouent n'avoir jamais lu. « Ce littérateur, diront-ils plus tard, n'entre pas dans mon genre d'idées. Il n'écrit que des bêtises. Je ne lis pas de pareils bouquins. » Cette intolérance est bien de notre temps, surtout de ces 20 dernières années. Elle s'étale avec une bravoure impudente. On voit des hommes d'une instruction nulle se moquer de gens instruits, à leur nez, à leur barbe. Tout se simplifie exagérément, comme je le disais plus haut. Par exemple, le sentiment de l'allégorie, de la métaphore, commence à se perdre, généralement parlant. On ne comprend plus davantage la plaisanterie, l'humour, et ceci, selon la très juste appréciation d'un écrivain allemand, est un des plus forts indices de l'abaissement mental d'une époque. De nos jours, nous assistons au règne des gens lugubres et obtus. Vous croyez que je ne parle que des jeunes et des libéraux? J'en dis autant pour les vieillards et les conservateurs. Comme pour imiter les jeunes, qui ont d'ailleurs des cheveux gris, apparurent, il y a 20 ans environ, des conservateurs bizarres et simplistes, vieillards fougueux et irrités, qui ne voulaient rien comprendre à la génération nouvelle. Leur simplicité, leur simplisme dépassaient en inintelligence les nobles incompréhensions des hommes nouveaux les plus obtus. Du reste, il paraît que je me suis singulièrement égarée en condamnant le simplisme. À peine eus-je publié l'article dont je parlais tout à l'heure, que je fus littéralement inondée de lettres. « Que voulez-vous dire ? » me demandait-on. « Excusez-vous donc réellement le suicide ?» Quelques-uns paraissaient ravis de me voir, suivant eux, l'excuser. Et voici que, ces jours derniers, un écrivain, N.P., m'envoya un article de lui paru dans une revue de Moscou, La Distraction. Comme je ne reçois pas ordinairement cette distraction, j'attribue l'envoi de l'article à l'aimable auteur. Il condamne ma prose et la raille. « J'ai reçu, écrit-il, le numéro d'octobre du carnet d'un écrivain. Je l'ai lu et suis demeuré pensif. Il y a d'excellentes choses dans ce fascicule. D'autres, beaucoup d'autres, sont étranges et nous en exprimerons brièvement notre étonnement. À quoi bon, par exemple, insérer dans ce fascicule le raisonnement d'un suicidé par ennui? Je ne comprends pas la raison de cette publication. Ce raisonnement, si l'on peut appeler ainsi des paroles délirantes d'hommes à moitié fous, est connu depuis longtemps. Il est un peu paraphrasé, comme de juste. Sa réapparition de nos jours dans le carnet d'un écrivain comme Dostoïevski fait l'effet d'un anachronisme un peu ridicule. Nous sommes dans un siècle aux idées de fer, aux opinions positives, dans le siècle de la vie à tout prix. Bien entendu, il y a encore des suicides, avec ou sans raisonnement. Mais on ne fait plus attention à ces héroïsmes mesquins. C'est vraiment trop bête. Il y eut un temps où le suicide, surtout le suicide avec raisonnement, avait ses panégyristes. Mais ce temps pourri est loin de nous, et il n'y a pas lieu de le regretter. Comment pleurer sur un suicidé qui meurt en raisonnant comme le carnet de M. Dostoïevski? C'est un égoïste grossier, l'un des membres les plus nuisibles de la société humaine. Il ne peut donc même pas faire sa stupide besogne sans faire parler de lui? Il avait le droit de mourir sans aucun raisonnement. Quand j'eus lu cette page, je demeurai désolée. Mon Dieu, faudra-t-il que j'aie beaucoup de lecteurs de la force de N.P. qui s'imaginent que j'ai inventé mon suicidé à seule fin de le faire plaindre par lui? Naturellement, l'opinion de N.P. n'a pas une importance capitale. Mais N.P. représente une catégorie d'esprit, toute une collection de messieurs comme lui. Il est le type de ces hommes aux opinions de fer dont il parle dans son article. Cette collection d'individus en fer me fait peur. Je m'inquiète peut-être trop de tout cela, mais je dois dire franchement que je n'aurais peut-être pas répondu, non par mépris, mais par manque de place, si je n'avais tenté de répondre à mes propres doutes. C'est à moi que je réponds. Ajoutons donc une morale à l'article d'octobre, comme cela ma conscience sera tranquille. Chapitre 3. Des affirmations sans preuve. Mon article touche à l'idée la plus haute sur la vie humaine, au besoin, à l'indispensabilité de la croyance à l'immortalité de l'âme. J'ai voulu dire que sans cette croyance, la vie humaine devient inintelligible et insupportable. Il me semble que j'ai énoncé clairement la formule du suicide logique. Mon suicidé ne croit pas à l'immortalité de l'âme. Il s'explique à ce sujet dès le début de l'article. Peu à peu, en pensant que l'existence n'a pas de but, pris de haine contre l'inertie muette de ce qui l'entoure, il arrive à cette conviction que la vie humaine est une absurdité. Il devient pour lui, clair comme le jour, que ceux-là seuls parmi les hommes peuvent consentir à vivre, qui sont pareils aux animaux et satisfont des besoins purement bestiaux. Ils s'arrangent cela de vivre pour manger, boire et dormir, comme les brutes, pour construire leur gîte et procréer des petits. Baffrer, ronfler et faire des ordures, cela séduira encore longtemps l'homme et l'attachera à la terre. Mais moi, l'homme du type supérieur, s'entend. Pourtant, ce sont toujours des hommes de type supérieur qui ont régné sur la terre, et les choses ne s'en sont pas moins passées de la même façon. Mais il y a une parole suprême, une pensée suprême, sans lesquelles l'humanité ne peut vivre. Souvent, la parole est prononcée par un homme pauvre, sans influence, persécuté même. Mais la parole prononcée et la pensée qu'elle exprime ne meurent pas, et plus tard, malgré le triomphe apparent des forces matérielles, la pensée vit et fructifie. N.P. écrit que l'apparition d'une telle confession dans mon carnet est un anachronisme ridicule, parce que nous sommes, à présent, dans le siècle des opinions de fer, des idées positives, dans le siècle de la vie à tout prix. C'est sans doute pour cela que les suicides ont tant augmenté dans la classe intelligente et cultivée. J'affirme à l'honorable N.P. et à tous ses semblables que le fer des opinions se change en duvet quand l'heure est venue. Pour moi, l'une des choses qui m'inquiète le plus quand je songe à notre avenir, c'est justement le progrès du manque de foi. L'incroyance en l'immortalité de l'âme s'enracine de plus en plus. Ou pour mieux dire, il y a de nos jours une indifférence absolue pour cette idée suprême de l'existence humaine, l'immortalité. Cette indifférence devient comme une particularité de notre haute société russe. Elle est plus évidente chez nous que dans la plupart des pays de l'Europe. Et sans cette idée suprême de l'immortalité de l'âme humaine, ne peuvent exister ni un homme ni une nation. Toutes les autres hautes idées dérivent de celle-là. Mon suicidé est un propagateur passionné de son opinion, la nécessité du suicide. Mais il n'est ni un indifférent, ni un homme de fer. Il souffre vraiment, je crois l'avoir fait comprendre. Il n'est que trop évident pour lui qu'il ne peut vivre. Il ne sait que trop qu'il a raison et qu'on ne peut le réfuter. À quoi bon vivre si la conscience qu'il est abominable de vivre d'une vie animale? Il se rend bien compte qu'il y a une harmonie générale. Sa conscience le lui dit, mais il ne peut s'y associer. Il ne comprend pas. Où donc est le mal? En quoi s'est-il trompé? Le mal est dans la perte de la foi en l'immortalité de l'âme. Il a pourtant cherché de toutes ses forces l'apaisement et la réconciliation avec ce qui l'entoure. Il a voulu les trouver dans l'amour de l'humanité. Mais cela encore lui échappe. L'idée que la vie de l'humanité n'est qu'un instant, que tout plus tard se réduira à zéro, tue en lui l'amour même de l'humanité. On a vu dans des familles malheureuses et dénuées les parents prendre leurs enfants en horreur parce qu'ils souffraient trop de la faim, ces enfants aimés d'eux. La conscience de ne pouvoir parier aucun secours à l'humanité qui souffre peut changer l'amour que vous aviez pour elle en haine contre cette humanité. Les messieurs aux opinions de fer n'ajouteront pas foi à mes paroles, bien entendu. Pour eux, l'amour pour l'humanité et son bonheur, tout cela est à si bon compte, si bien organisé, que ce n'est plus la peine d'y penser. Et je désire les faire rire pour tout de bon. Je déclare donc que l'amour de l'humanité est tout à fait impossible sans une croyance à l'immortalité de l'âme humaine. Ceux qui veulent remplacer cette croyance par l'amour pour l'humanité déposent dans l'âme de ceux qui ont perdu la foi un germe de haine contre l'humanité. Que les sages aux opinions de fer haussent les épaules en m'entendant exprimer un pareil avis. Mais cette pensée est plus profonde que leur sagesse, et un jour elle deviendra un axiome. J'affirme même que l'amour pour l'humanité est, en général, peu compréhensible, voire insaisissable pour l'âme humaine. Seul le sentiment peut le justifier, et ce sentiment n'est possible qu'avec la croyance en l'immortalité de l'âme. Et encore sans preuve. En somme, il est clair que sans croyance, le suicide devient logique et même inévitable pour l'homme qui s'est à peine élevé au-dessus des sensations de la bête. Au contraire, l'idée d'immortalité de l'âme, en promettant la vie éternelle, attache l'homme plus fortement à la terre. Il semble qu'il y ait ici une contradiction. Si, outre la vie terrestre, nous en avons encore une céleste, pourquoi faire un si grand cas de celle d'ici-bas? Mais ce n'est qu'avec la foi, dans son immortalité, que l'homme s'initie au but raisonnable de sa vie sur la terre. Sans la conviction en l'immortalité de l'âme, l'attachement de l'homme pour sa planète diminue, et la perte du sens suprême de la vie mène incontestablement au suicide. Et si la croyance en l'immortalité est si nécessaire à la vie humaine, c'est qu'elle est un état normal de l'humanité, et c'est une preuve que l'immortalité existe. En un mot, cette croyance est la vie elle-même et la première source de vérité et de conscience réelle pour l'humanité. Voilà quel était le but de mon article, la conclusion à laquelle je désirais que chacun arrivât quand je l'écrivis. Chapitre 4. Anecdote sur la vie enfantine. Je veux raconter ceci pour ne pas l'oublier. Une mère demeure avec sa fille, âgée de 12 ans, dans un faubourg de Pétersbourg, bien en dehors de l'agglomération principale. La famille n'est pas riche, mais la mère gagne sa vie en travaillant et la fillette fréquente une école de Pétersbourg. Chaque fois qu'elle se rend à l'école ou revient chez elle, elle prend place dans un omnibus qui va de Gostinoï Dvor jusqu'auprès de sa maison. Et voici qu'il y a 2 mois, alors que l'hiver fit si brusquement son apparition, la mère s'aperçut que sa fille Sacha n'étudiait plus ses leçons et le fit observer à la petite. « Oh, maman, ne t'inquiète pas, » répondit cette dernière. « J'ai tout préparé déjà. Je suis en avance d'au moins 1 semaine. » Si c'est ainsi, c'est bien. Le lendemain, Sacha alla à l'école. Mais à 6 heures du soir, le conducteur de l'omnibus apporta à la mère un mot ainsi conçu. « Ma chère petite mère, j'ai été toute la semaine une très vilaine fille. J'ai eu 3 zéros pour mes leçons. Je t'ai trompée tout ce temps-là. J'ai honte de rentrer et ne reviendrai plus chez toi. Pardonne-moi, ma chère maman, pardonne-moi. À Sacha. » On peut imaginer l'affreuse inquiétude de la mère. Elle voulut abandonner ses occupations et courir à la recherche de Sacha. Mais où et comment? Une personne amie s'offrit d'elle-même à faire toutes les démarches nécessaires, s'en fut prendre des renseignements à l'école, chez toutes les connaissances, et courut toute la nuit. La crainte que Sacha, repentante, revînt chez elle et repartit en ne trouvant pas sa mère, décida cette dernière à rester dans sa maison et à se fier aux ailes du bienveillant ami. Si Sacha n'était pas retrouvé le matin, on irait faire une déclaration à la police. Demeurée seule, la mère passa quelques heures pénibles que l'on peut se figurer. Et, raconte la mère, vers 10 heures du soir, j'entendis sur la neige de la cour de petits pas bien connus. Les mêmes pas montèrent l'escalier. La porte s'ouvrit et entra Sacha. « Maman, maman, comme je suis heureuse d'être revenue chez toi !» Elle joignait ses petites mains dont elle se couvrit la figure. Puis elle s'assit sur le lit, mais dans quel état de fatigue! Après les premières exclamations de joie, la mère ne voulut pas faire tout de suite des reproches. « Ah, maman, reprit la fillette, quand je t'ai menti hier au sujet des leçons, je me suis décidée tout de suite à ne plus aller à l'école et à ne plus revenir ici. Puisque je n'irai plus à l'école, je serai forcée de te tromper tous les jours quand je te dirai y aller. » Mais que voulais-tu devenir? Je pensais que je marcherais toute la journée par les rues. Mon vêtement fourré est chaud, et si j'avais trop froid, j'irais dans un passage couvert. Au lieu de dîner tous les jours, je me serais acheté un petit pain. Pour boire, je n'aurais pas été embarrassée, et il y a de la neige maintenant. Un petit pain m'aurait suffi pour un jour. J'ai 15 copecks, et un petit pain vaut 3 copecks. J'avais 5 jours d'assuré. Et après? Je ne sais pas, je n'ai pas pensé à après. Et où aurais-tu passé la nuit? J'y avais songé. Quand il aurait fait noir, j'aurais été à la gare du chemin de fer, mais loin, sur la voie où il ne passe plus personne. Il y a des quantités de wagons garés qui ne partent pas tout de suite. Je me serais caché dans l'un de ces wagons, et j'y aurais dormi jusqu'au matin. Alors, ce soir, j'ai été là-bas, là-bas, sur la voie, là où l'on ne rencontre plus de monde. J'ai vu des wagons garés, tout différents de ceux qui sont pour les voyageurs. J'en ai choisi un. J'y suis montée. Mais à peine étais-je sur le marchepied qu'un gardien est apparu et m'a crié « Où entres-tu? Ce sont des wagons où on transporte des morts. » Dès que j'ai entendu cela, j'ai sauté à bas et me suis sauvée. Le gardien me poursuivait en hurlant « Qu'est-ce que tu cherches par ici ?» J'ai couru, couru. Je me suis retrouvée dans une rue où j'ai aperçu une maison en construction. Elle n'avait pas encore de porte, rien que des planches qui bouchaient les ouvertures. J'ai trouvé un endroit où l'on pouvait passer entre les planches. J'ai suivi un mur à tâtons. J'ai trouvé un coin où il y avait par terre un tas de bois sec et lisse. Je me suis couchée dessus. Mais à peine étais-je étendue que j'ai entendu parler tout bas, très près de moi. Je me suis levée et d'autres voix ont parlé. Et il m'a semblé que des yeux me regardaient dans la nuit. J'ai eu affreusement peur et me suis encore enfui. Quand j'ai été dans la rue, des gens m'ont appelé de la maison en construction, que je croyais vide. J'étais déjà fatiguée, si fatiguée. J'ai suivi des rues. Des gens allaient et venaient. Je ne savais pas quelle heure il pouvait être. Tout à coup, je me suis trouvée sur la perspective Nevski, près de Gostinoï, et je me suis mise à pleurer. Ah! Me disais-je, si je rencontrais quelqu'un de bon, un bon monsieur qui aurait pitié d'une pauvre fillette qui ne sait où se réfugier pour la nuit, je lui avouerais tout, et je serais peut-être recueillie pour ce soir. Tout en pensant à cela, je marche toujours, et voici que j'aperçois notre omnibus qui partait pour son dernier voyage. Je le croyais bien loin depuis longtemps. Ah ! Ai-je pensé, je veux aller chez maman. Je suis montée dans l'omnibus, et comme je suis contente d'être chez toi. Jamais je ne te tromperai plus, et j'apprendrai bien mes leçons. Ah, maman! Ah, maman! Je l'ai questionnée, ajouta la mère. Sacha, est-ce bien toi qui as trouvé toute seule cette belle idée de ne plus aller à l'école et de vivre dans la rue? Vois-tu, maman, il y a longtemps que j'ai fait la connaissance d'une fille de mon âge, mais qui va à une autre école. Croirais-tu qu'elle n'y va presque jamais? Elle dit que l'école est très ennuyeuse et la rue très gaie. Moi, m'a-t-elle raconté. Dès que je suis hors de la maison, je marche. Il y a 15 jours que je n'ai mis le pied à l'école. Je regarde les vitrines des magasins, je me promène dans les passages, jusqu'au soir, jusqu'à l'heure où il me faut rentrer chez moi. Quand j'ai su cela, j'ai pensé, je voudrais bien en faire autant. Et j'ai été dégoûtée de l'école plus qu'avant. Mais je n'ai eu aucune intention précise jusqu'à hier soir, après t'avoir menti. Je me suis alors décidée à faire ce que j'ai fait. Cette anecdote est authentique. Naturellement, la mère a pris des mesures. Quand on m'a raconté la chose, j'ai pensé qu'il ne serait aucunement inutile de la faire figurer dans mon carnet. On va me dire que c'est un cas unique, et que sans doute il s'agit d'une gamine très stupide. Mais je sais que la fillette est loin d'être bête. Je sais aussi que dans ces âmes jeunes, après la première enfance, mais à une époque où les moutards sont encore absolument inexpérimentés, il peut naître un tas de rêveries plus ou moins malsaines. Cet âge, 12 ou 13 ans, est extrêmement intéressant, encore plus chez une fillette que chez un garçon. Mais, en fait de garçon, rappelez-vous cette nouvelle parue dans un journal d'il y a 4 ans. 3 collégiens s'étaient sauvés du gymnase avec l'intention d'aller en Amérique. On ne les avait rattrapés qu'à une certaine distance de la ville. L'un d'eux était porteur d'un pistolet. Il y a 20 ou 30 années, il passait aussi bien des rêves et d'étranges fantaisies dans la cervelle des gamins et gamines. Mais ceux d'aujourd'hui sont plus décidés. Leurs réflexions et leurs doutes durent moins. Autrefois, tel petit gaillard de cet âge méditait de se sauver pour faire, par exemple, un voyage à Venise dont ils avaient la tête farcie grâce à certains romans d'Hoffmann et de George Sand. J'ai eu un condisciple de ce genre. Mais ils n'exécutaient pas leur projet et se contentaient de le confier à un camarade après en avoir obtenu le serment d'être discret. Ceux d'aujourd'hui exécutent ce que les autres se bornaient à rêver. Autrefois, certains sentiments de devoir, d'obligation envers la famille avaient beaucoup de puissance. Aujourd'hui, tout cela a perdu beaucoup de sa force. L'essentiel, c'est que ce ne sont pas là du tout des cas isolés, et ce ne sont pas des enfants stupides qui se permettent ces escapades. Cet âge, je le répète, est très intéressant et mériterait plus d'attention de la part des éducateurs. Combien de choses terribles peuvent arriver à nos enfants? Réfléchissez seulement à ce passage du récit que je reproduisais tout à l'heure, au moment où la fillette fatiguée se propose de tout raconter à un passant. À un « bon monsieur », par exemple, qui aura pitié d'une pauvre fillette qui ne sait où se réfugier pour la nuit. Pensez combien cette intention, qui atteste son innocence enfantine, est facile à réaliser. Chez nous, dans toutes les rues, les bons messieurs fourmillent. Mais après, le lendemain, que serait devenue la fillette? En admettant que le « bon monsieur » fût d'une espèce trop répandue aujourd'hui, c'était « la rivière ou la honte d'avouer ». Supposons qu'elle eût préféré la honte d'avouer. Peu à peu, elle se fût habituée au souvenir de cette honte. Et qui sait si, après avoir trop songé à ce qui lui était arrivé, elle n'aurait pas eu la fantaisie de chercher une nouvelle aventure du même genre. À 12 ans, on devine tout ce qui serait advenu par la suite. Et cette autre fillette, qui, au lieu d'aller à l'école, passe son temps aux vitrines des magasins et dans les passages, et donne à la première gamine l'idée d'un nouvel emploi de son temps. J'ai déjà entendu parler auparavant de jeunes garçons qui trouvaient que l'école était fastidieuse et que le vagabondage avait beaucoup de charme et de gaieté. La propension au vagabondage est presque nationale en Russie. C'est encore un de ces penchants naturels qui nous distingue du reste des Européens. Un penchant qui devient plus tard une passion maladive, dont le premier germe a été contracté dès l'enfance. Je vois qu'il y a maintenant aussi des fillettes qui vagabondent, certes bien innocemment au début. Mais fussent-elles pures comme de petits êtres primitifs évoluant dans un paradis terrestre, elles n'échapperont pas à la connaissance du bien et du mal, même si elles ne pêchent qu'en imagination. La rue est une école où l'on apprend vite. L'essentiel, je le répète, c'est de songer à quel point est intéressant cet âge où l'innocence encore enfantine s'allie à une incroyable aptitude à recevoir des impressions, à une extraordinaire faculté de s'assimiler toute espèce d'expérience, bonne ou mauvaise. C'est ce qui rend si dangereuse et si critique cette période de la vie des adolescents.